téléspectateurs, vous.
J'ai entendu ça aux infos.
Twitter.
Les réseaux sociaux. Il est très cher. C'était notre temps. Hello.
Il est 9h40 et l'instant M, c'est la toute petite émission qui en dit long.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
C'est pas facile d'interviewer Michel Onfray. D'abord, Michel Onfray n'a plus de voix ce matin, mais on va quand même y arriver. C'est pas facile quand on a lu ses entretiens, quand on a vu ses passages télé et regardé tout ce qu'il a mis en ligne sur sa nouvelle Web TV. Les journalistes y sont qualifiés de demi-cerveaux, dont les questions, toujours les mêmes, sont dictées par la ligne du média qu'il représente. Or, s'il est un média sur lequel Onfray tape à coup de massue, c'est bien France Inter. Pas facile, mais ça vaut le coup d'essayer, parce que la création du site michelonfray.com soulève des interrogations passionnantes sur la dissémination du savoir, sur sa personnalisation, sur sa fragmentation aussi, et sur son financement. Cette Web TV émane d'une réflexion critique sur nos médias de masse. Alors allons-y, réfléchissons à ces deux modèles qui s'opposent. Et puis, vous savez quoi ? Plus vous critiquez la télé, plus vous me donnez envie de la défendre. Bonjour Michel Onfray.
Bonjour.
Bonjour, vous avez entendu. C'est un peu Dark Vador ce matin sur France Inter. Et puis bonjour à vous tous, hashtag Instant M.
L'Instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Qu'est-ce que vous savez de l'inversion des pôles ?
Durant l'Antiquité, Paris est connue sous un autre nom, Lutèce. En tout cas, c'est comme ça qu'elle est appelée par César, qui le premier en fait mention dans ses écrits.
Et si on pouvait différencier les populations sur la base de leur patrimoine génétique ? Et si il y avait de vraies différences de performance entre les peuples humains ? Est-ce que ce serait grave ?
C'est pourquoi là, je pense qu'il est fondamental de comprendre la différence entre la notion d'égalité et celle d'équité. L'égalité, c'est considérer que tout le monde part de la même base. Mais c'est aussi sur ce concept-là que le néolibéralisme va s'appuyer énormément.
Des web télé à foison sur le web, évidemment, donc des web TV en histoire, en science, en biologie, en sciences humaines, dans tous les sens, en sociologie. Michel Onfray, vous opposez à juste titre la création d'un nouveau type de média aux médias de masse. Ça pose des questions passionnantes sur les vecteurs de la dissémination du savoir et plus largement, c'est la question du programme pour tous face au programme pour chacun, de la télé pour tous et de la télé pour chacun.
Oui, vous parliez de France Inter tout à l'heure, il y a une ligne politique à France Inter qui n'est pas la mienne, mais il y a des émissions comme la vôtre que je peux écouter parce que justement on n'est pas forcément dans la ligne politique.
Alors moi je vous parle moins du contenu que des vecteurs et des supports, c'est-à-dire c'est pas tant la pluralité des idées et du savoir que vous allez mettre en ligne et dont on va parler que la pluralité des publics que vous êtes capable de toucher en faisant ça.
Oui, mais ça, je sais pas. Moi, vous savez, quand il y a 1000 personnes dans chacune de mes conférences, je peux pas faire de sociologie. J'ai toujours refusé qu'on en fasse. Je ne veux pas qu'on assigne à résidence des gens en disant vous êtes Bac+3, Bac -3, vous êtes provinciaux, vous venez de Paris ou je ne sais quoi. J'ai toujours refusé ça dès le départ. Parce que je suis dans une logique d'éducation populaire. Il n'y a pas de ligne politique. Parce que il y a des lignes politiques. L'université populaire y est tout entière dans ce média. On dit c'est le média de Michel Onfray. C'est vrai, c'est faux. Alors c'est vrai que je suis un tracteur, disons-le comme ça. Mais il y a une vingtaine d'amis qui sont là et qui disent des choses différentes. Moi, je suis anti-libéral. J'ai un ami qui est libéral. Je suis athée. J'ai une amie qui est catholique pratiquante. J'ai un ami peu importe. On va pas faire.
Sauf que quand je dis une télé pour chacun, je dis pas une télé pour Michel Onfray. Moi, ce qui me semble, c'est qu'avec Internet, on n'a jamais eu autant accès dans l'histoire de la pensée, autant de savoir, autant d'informations. Il y en a tellement que pour s'y retrouver, on constate qu'il y a un repli de chacun sur ses affinités, sur sa communauté. Les fidèles de Michel Onfray et de son université populaire vont s'abonner à michelonfray.com. Et c'est là où il y a une grande différence. C'est-à-dire, quand vous vous exprimez sur une grande chaîne, vous êtes écouté, vous êtes découvert par des gens qui ne vous connaissaient pas ou qui ne s'intéressaient pas à vous, a priori.
Oui, c'est du sur-mesure.
C'est du sur-mesure.
C'est du sur-mesure. Vous savez, j'ai découvert l'autre jour qu'il y avait une chaîne pour les chiens.
Ah.
Une chaîne télé pour les chiens. Donc, il y a des images de chiens et il y a des petites musiques. Et c'est fait pour les chiens quand on est parti travailler et on laisse son chien. Donc, je trouve normal qu'il y ait des radios thématiques comme il devrait y avoir des télé thématiques.
Est-ce qu'on risque pas une communautarisation des savoirs?
Non, parce qu'on n'est pas tenu de l'écouter sous perfusion 24 heures sur 24. Des fois, on a envie de faire de la philo, on y va. Puis des fois, c'est de la socio, puis de la psychologie. psychologie, puis de l'histoire, je ne sais quoi.
Ça pose quand même la question du lien social. La télévision, non, ça a été, à une époque, un instrument de lien social, justement.
Oui, mais aujourd'hui, vous pouvez zapper. Si vous êtes un sportif, vous avez des chaînes pour vous. Mmh. Si vous êtes un chien, vous avez des chaînes pour vous. Vous avez des chaînes de chasseurs, de pêcheurs, de montagnes. Vous avez des chaînes de séries américaines, etc. Je trouve ça très bien. On fait son marché d'une certaine manière et c'est du sur-mesure pour l'auditeur, mais c'est aussi dans l'usage du sur-mesure. Si vous avez envie à 3h du matin d'écouter quelque chose, vous écoutez à 3h du matin ce que vous voulez écouter, puis si vous avez envie d'arrêter, vous arrêtez.
Donc est-ce que ces deux modèles, du média de masse et puis du self-made média, comme disent les Américains, est-ce que ces deux modèles se contredisent? Est-ce qu'ils s'opposent? Ou est-ce qu'en fait ils se complètent?
Il y a le modèle du riche et le modèle du pauvre. On sait très bien qu'il faut rien, presque rien comme argent pour faire une web TV. Vraiment, si on est bricoleur, moi je le suis pas, donc il y a une équipe qui fait ça pour moi, mais si on est un bon bricoleur et qu'on ne fait que ça, vraiment le matériel c'est pas cher, vraiment, et on y va et on démarre. On sait très bien que sur, je sais pas, France Inter par exemple, il faut un très très gros budget. Donc il faut des gens qui financent, les gens qui financent ont des exigences. Et donc il y a des lignes politiques qui supposent des lignes économiques aussi. Si c'est pas France Inter, il y a d'autres radios qui sont des radios commerciales, il y a la publicité. Il faut un maximum de gens au moment où on balance la publicité. Pour avoir un maximum de gens, il faut des contenus un peu bas. On fait pas des très grosses audiences avec des gens intelligents. On fait des grosses audiences avec des grosses blagues de potage, avec des grossièretés ou ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'argent derrière. Si nous, par exemple, dans cette Web TV, on a d'obligation que sur les contenus. Et encore, on regarde nous-mêmes. Il y a personne qui va nous dire, il faut dire ceci, il faut pas dire cela. Il faut plus de gens, moins de gens. Il faut, donc on a une vraie liberté.
Mais quand vous passez au crible, la mécanique de l'audience, en disant forcément, oui, on nivelle par le bas quand on veut faire de l'audience. Je rappelle que hier, vous étiez l'invité, vous avez passé presque toute votre journée à la télévision hier. Vous étiez l'invité de BFM TV, vous étiez l'invité de France 5, qui a enchaîné deux émissions autour de Michel Onfray. Donc forcément, vous rendez tout le monde dingo, puisque vous critiquer la télévision en disant que c'est devenu une arme de destruction massive de l'intelligence, oui, et en même temps vous y multipliez les passages, oui, ce qui est extrêmement difficile à comprendre.
Non, parce que si je veux vous tenir au courant de toutes les invitations qui me sont faites, je suis invité une dizaine de fois par semaine. J'y vais une fois ou deux, et quand je suis à Paris, je cale une ou deux interventions, puis je repars très vite. Et donc, effectivement, c'est ce qui fait qu'il y a eu deux émissions hier. Maintenant, je ne sais pas toujours, moi j'ai quelqu'un qui s'occupe de tout ça pour moi, je ne sais pas toujours si c'est en direct, si c'est enregistré, si c'est diffusé en même temps. Et ça peut, effectivement, je comprends que les gens aient des effets de saturation en disant encore lui, quoi. On zappe, on passe à autre chose, ça ne veut pas voir Onfray.
Vous avez des confrères chercheurs qui peuvent être très influents, comme un Frédéric Lordon, par exemple, aujourd'hui, qui se refusent totalement. Oui. Au jeu des médias de masse.
Oui, mais je pense qu'il a tort. Ses idées sont bonnes et on devrait les entendre.
C'est ça.
Je pense que quand on va dans un média, on y va avec ses idées et on s'y prostitue pas. Sauf quand on a un rond de serviette et qu'on est chroniqueur et qu'on est obligé de dire des bêtises. Mais sinon, on y va, on dit ce qu'on a à dire et on rentre chez soi. C'est de l'argent public, France Inter, ce sont mes impôts aussi. On y entend beaucoup les mêmes voix. Je pense que de temps en temps, il faut y entendre d'autres voix. Donc pas seulement les voix qui nous disent ce qui est le bien et ce qui est le mal, mais d'autres voix qui disent que peut-être ce bien-là est un mal et ce mal-là est un bien.
Alors, il y a, que trouve-t-on donc sur MichelOnfray.com, il y a des objets de nature très très diverses sur ce site. Il y a évidemment les cours, les conférences, les vôtres, celles d'autres intervenants, vous l'avez dit. Il y a des chroniques hebdo, vous réagissez à l'actu, comme vous le faisiez sur France Culture encore récemment. Et puis, il y a des objets inattendus. Vous répondez par exemple aux questions des internautes, celle de Mathieu qui vous demande si vous n'avez jamais eu envie d'être père.
Non, je n'ai jamais ressenti le besoin d'être père. Encore que, si je réfléchis bien, si quand même, quand j'avais 14 ou 15 ans, parce que je crois que à cet âge-là, on souscrit au modèle dominant qu'on nous propose.
Alors, pourquoi répondre à des questions d'ordre privé, Michel Onfray ?
Ça dépend. Il y a des questions d'ordre privé auxquelles je ne réponds pas. Mais on est parti du principe avec l'équipe que toutes les questions arrivaient et que les gens votaient pour élire telle ou telle question. Et c'est le jeu démocratique, c'est-à-dire qu'il y a parfois 500 demandes sur une question, 500 personnes qui veulent effectivement que je réponde à cette question-là. Donc je ne dis pas, je vais écarter cette réponse. Et il y a même quand je dis il y a des questions auxquelles je ne réponds pas, c'est pas vrai. J'y réponds sans dire forcément des choses sur ma vie privée qui exposeraient des gens que je ne veux pas exposer. Ma compagne qui est décédée ou des choses comme ça, j'ai pas envie de donner de détails. Je dis des choses, mais je maîtrise ce que je dis et je n'en dirai pas plus. Donc ça crée une vraie proximité avec les gens, ça oblige à des devoirs. on n'a pas des droits avec ces auditeurs, on a des devoirs. Ils se posent ces questions-là parce qu'ils se les posent à eux-mêmes. Ils savent que j'ai pas d'enfants, ils se disent mais pourquoi il a pas d'enfants ? Moi j'en ai, ou moi je veux peut-être en avoir, ou moi je ne veux pas en avoir. Ces questions qui donnent l'impression d'être des questions intimes, personnelles, sont aussi des questions qui renvoient chacun et à lui-même. Parce que pour moi la philosophie c'est vraiment quelque chose qu'on vit, c'est pas quelque chose
alors,
qu'on pense.
Alors justement, en matière de philosophie, le philosophe qui pénètre publiquement l'actualité, on peut le dater grossièrement de Sartre ou peut-être même de Voltaire avant, vous diriez. Oui, c'est ça, de Voltaire avant. Oui. Voilà. Là, il y a une dimension supplémentaire. C'est la mise en scène de soi, le partage de son expérience. Hein, c'est la question de la prédominance du sujet, finalement, dans l'énoncé d'une pensée. Est-ce que ça s'inscrit dans une manière de faire de la philosophie, dans un courant de la philosophie, dans une histoire de la philosophie, ou est-ce que c'est quelque chose de très récent ?
Non, vous avez raison, c'est une posture nietzschéenne. C'est Nietzsche qui nous dit qu'une philosophie, c'est la confession d'un corps. C'est une autobiographie, toujours. Mais ça marche pour un peintre. Ce que j'ai rencontré il y a peu de temps, Soulages. Le noir de Soulages s'explique. Et il y a une autobiographie qui permet d'expliquer pourquoi cette peinture, toujours et en permanence, est obsessionnelle, etc. Toutes les œuvres d'art sont des produits de biographie. Voilà pourquoi, de temps en temps, je donne des informations biographiques. Pourquoi est-ce que je suis libertaire ? On est bien obligé de dire qu'on a eu, je sais pas, un père ouvrier agricole...
Mais à partir de quand, diriez-vous, Michel Onfray, le philosophe qui prend la parole publiquement, énonce sa pensée en disant « moi en tant que ».
Ben, un certain Montaigne.
Ce
n'est que ça, c'est-à-dire c'est le début de la philosophie française et c'est toute la philosophie française. Je crois que depuis Montaigne, on n'a rien dit de neuf. Montaigne est renvoyé par les philosophes aux littéraires, les littéraires le renvoient à la philosophie, très peu le lisent et quand on lit 10 chapitres, quoi. On lit sur les coches, sur les esclaves, sur les barbares, sur l'amitié, etc. Moi, je l'ai lu plusieurs fois, plus mal à main, du début jusqu'à la fin. C'est une philosophie où on y raconte tout. Qu'il aime les huîtres, qu'il aime les femmes, et quand il mange, il laisse des traces dans ses moustaches, qu'il a un petit sexe, qu'il a eu un accident de cheval, etc. Mais il nous dit ça pas seulement pour nous dire « je m'exhibe ». Pascal, qui n'aime pas beaucoup Montaigne et qui dit « le moi est haïssable », n'arrête pas de dire « je ». Dans les pensées, il n'arrête pas de dire « je ». Quand il nous parle, Pascal, il raconte ses angoisses, ses peurs. Les deux infinis, c'est quoi ? Il
est assis sur une chaise. Alors, ça donne aussi des billets sur votre site qui m'ont laissé totalement abasourdi et hilar. Là, je renvoie vraiment les auditeurs vers le site parce que quand vous racontez que vous avez pris un bateau entre Bora Bora et Tahiti, que vous avez dégueulé votre ypres, vous avez là des pensées sur la comparaison entre la voile et le camping-car, sur les odeurs de vomi et sur les couches de lilliputiens. Moi, j'ai beaucoup ri en lisant ça. Alors, vous l'avez dit, il faut quand même le financer, un média, même si c'est peu de moyens, mais il y a quand même derrière une équipe. Vous aviez deux solutions pour financer cette Web TV. Vous aviez inclure de la publicité.
Voilà.
Comme on commence à le faire, nous, par exemple, à Radio France, ou faire payer le public. Pourquoi avoir rejeté la solution publicitaire ?
Parce que on m'a expliqué que la publicité, moi je suis pas très au courant, mais je me suis dit bon, s'il y a un bandeau publicitaire à côté, on peut faire l'économie de ça. On m'a dit pas du tout, la publicité surgit quand tu parles. Donc tu parles, puis d'un seul coup, paf, la pub arrive, et puis je me suis dit, on doit aussi un respect à son auditeur en disant, il y aura un contenu, il sera épargné par la publicité. Et après, je me suis dit, je suis pas payé pour ça, évidemment, mais je peux pas demander que les gens qui travaillent pour moi ne le soient pas non plus. Donc il s'agit pas d'en faire un modèle rentable, il suffit d'en faire un modèle qui ne perd pas de l'argent. Donc il y a une équipe d'une dizaine de personnes qui ne fait pas que ça, mais il faut bien payer les investissements. Donc j'ai dit, alors d'accord, on paye, mais le plus bas possible. Faites-moi quelque chose.
Donc c'est 4 euros par mois ?
Alors c'est 4 euros par mois, c'est 40 euros par an. Mm-hmm. Et si on paye donc un abonnement par année, mais ça ne fait pas ça. Ça fait en gros 10 centimes d'euros par jour. Donc on peut trouver ça. Je pense qu'on m'en fait le reproche. On me dit quoi, vous, l'homme de la gratuité, etc. Je dis, mais je ne gagne pas.
Oui, l'université d'argent. Populaire est fondée sur le modèle de la gratuité, je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas.
Et donc je dis, mais oui, mais on ne peut pas non plus payer pour travailler gratuitement. Je ne peux pas, moi, mettre de l'argent dans un média pour que le média soit gratuit quand il s'agit de donner 4 euros. Quand on achète un journal, on ne dit pas qu'il est payant, que c'est pas normal. D'autant que ces journaux sont subventionnés, très subventionnés par l'État et l'argent public. Donc je dis, mais à un moment donné, il faut accepter de payer un café, et c'est même pas le prix d'un café, pour pouvoir disposer d'une information dont on sait ce qu'elle est. C'est-à-dire, on sait ce qu'est le contenu de cette web TV.
Évidemment, tout ça, ça fait beaucoup réfléchir à comment on finance à l'avenir la télévision publique, les médias publics. Là, vous venez de parler des journaux, on y va justement. Moi, j'ai lu avec intérêt votre billet hommage à Stello Lorenzi. La caméra explore le temps.
Mais plus les pieds à mon épicerie, moi.
Ta femme cherche bien le client. Hein. Elle a la main plus lourde que toi.
Oui, mais elle est plus...
Oui,
plus avenante.
Merci.
Ouais, sent bien un peu le poisson séché, mais... Eh ben, quoi, ça prouve qu'on en vend, hein.
Alors, je partage votre admiration, Michel Onfray, pour les grands réalisateurs de l'ORTF. D'ailleurs, tous les vendredis, il y a un jeu ici pour les auditeurs et je leur fais gagner des rééditions de Lina et Marcel Bluval, en veux-tu, en voilà. Alors, savez-vous en même temps que la télévision d'aujourd'hui, la télévision en couleur, parce que vous concluez votre billet en disant « La télévision est devenue une arme de destruction massive de l'intelligence, voir le monde en noir et blanc conserve tout son charme ». Mais non, la télé en couleur, elle peut être aussi formidablement exigeante et intelligente, vous croyez pas ? La télé d'aujourd'hui.
Écoutez, moi, je
vous qui êtes un homme de votre époque.
Oui. Merci de le dire.
Non, mais oui. Non,
j'ai
mais
regardé
oui.
Des choses sur la Révolution française et justement, il y avait des séries extraordinaires sur Marie-Antoinette, sur la fuite à Varennes, etc. Et c'est extrêmement respectueux historiquement. Vraiment, c'est extraordinaire. On se dit, c'est une leçon d'histoire. Ce sont des anciens, c'était des communistes, c'était des gens qui avaient le sens de la culture, le sens de l'éducation populaire, le sens de la transmission au plus grand nombre. Ça, c'était formidable. Et on se retrouve aujourd'hui avec des gens qui estiment que, bon, finalement, la vérité historique, ça n'existe pas, on est dans un relativisme total. Et vous prenez par exemple Luc Besson qui construit tout son film sur Jeanne d'Arc en nous expliquant qu'elle avait une sœur qui s'est faite violer et que c'est parce qu'elle s'est faite violer par les Anglais qu'elle est devenue Jeanne d'Arc.
Ouais, alors moi je vous parle de la télévision publique, Michel Onfray. Moi je vous parle de Riti Pan, de William Carrel, de Patrick Rothman, de Jean-Michel Carré, de Jean-Xavier de Lestrade ou des plus jeunes par exemple, si on s'en tient qu'au documentaire de Virginie Linard, d'Alice Diop, etc. Est-ce que vous vous trompez pas de combat ? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on peut se dire que la télévision publique française, elle est encore capable de financer et de mettre à l'antenne des programmes d'une qualité quand même exceptionnelle, qui n'existe plus ailleurs en Europe, en Italie, plus personne ne finance du documentaire, et qu'il faudrait se battre pour le préserver plutôt que le critiquer ? C'est une vraie question.
Oui, sûrement. Et là, vous touchez à mes limites. C'est-à-dire que je suis pas un grand téléphile et peut-être je suis pas assez informé. Vous me donnez effectivement des pistes qui supposeraient que j'aille y voir d'un peu plus près pour être un peu moins approximatif.
Là, je vous parle de choses qui sont en première partie de soirée sur France 3, sur Arte, sur France 5. En deuxième partie soirée sur une aussi grosse chaîne que France 2.
Oui, mais moi j'étais un amoureux déçu et donc je regarde plus. C'est un peu comme les romans français.
Ben, c'est ça.
Ben oui. Donc, il y a un moment donné, on se dit non, je vais pas passer. Enfin, je regarde très peu la télévision uniquement pour les informations. Et parfois, quand je regarde des informations, je me dis, je regarde 10 minutes, puis je passe à autre chose en me disant non, ça ne marche pas. Il y a des concessions qui sont faites à la médiocrité, je dirais. Il n'y avait pas de concessions chez Stelio Lorenzi et quelques autres, ou Marcel Bluval.
En même temps, vous êtes bien d'accord que l'ORTF, pour avoir été une chaîne aux ordres, ça a été vraiment des chaînes aux ordres.
Ben écoutez, moi je préfère une chaîne aux ordres de l'intelligence plutôt qu'aux ordres des marchés.
Mais elle était aux ordres du pouvoir politique.
Non, mais quand vous faites... mais aujourd'hui aussi, vous rigolez.
Votre nostalgie, elle tient moyennement debout, Michel Onfray.
Entre le général de Gaulle qui dit c'est la voix de la France, et il y a des choses qu'on dira, des choses qu'on ne dira pas, et aujourd'hui, les radios qui nous disent c'est la voix du marché, et on fera ce qu'il y a de plus vil et de plus bas pour avoir un maximum de gens, je préférais effectivement, ça nous donnait Marcel Bluval à l'époque, et ça nous donne...
Vous préférez Pierre Fitte, quoi.
Non, c'est pas ça. Je vous parle de Bluval en vous disant qu'il y avait une qualité. J'ai déjà dit, mais mes parents ont reçu une télévision de leurs voisins parce que les voisins changeaient de télévision. Ils ont donné une espèce de gros meuble. Et le jour où la télévision est arrivée, il y avait les Perses d'Eschyle en noir et blanc. Mm-hmm. Ça veut dire qu'à l'époque, la fameuse télévision dont on dit qu'elle était fasciste, elle faisait de l'éducation populaire parce qu'elle estimait que le grand public pouvait regarder Eschyle. Aujourd'hui, Eschyle, c'est sur Arte à 3h du matin. Et sur les chaînes de service public, je vais pas donner des noms, ça va encore faire des polémiques, ça va créer le buzz. Mais enfin, les gens qui mettent des nouilles dans les slip.
Mais vous savez, Bruno Dumont, Raoul Peck et tout ça, c'est des prime time. Vous savez quoi, Michel Onfray ?
Je ne regarde pas assez la télé.
Vous ne regardez pas assez la télé.
Vous allez
la regarder.
Vous
allez revenir dans l'instant M. Et on va débriefer la télé, vous et moi, dans l'instant M. D'accord ?
Je pense que vous avez raison.
Mais oui. Merci beaucoup. MichelOnfray.com, 4€ par mois, c'est donc votre web TV. Allez-y pour jeter un coup d'œil et vous faire votre idée. C'est la fin de l'instant M. Bonjour Ali Rebéi.
Bonjour Sonate de Villers.
Grand bien vous fasse aujourd'hui.
Ces maladies que l'on peut prévenir et guérir sans médicaments, nous verrons ce matin que notre corps et notre esprit sont dotés de mécanismes d'auto-réparation et d'auto-guérison que l'on appelle par exemple...
Vous avez rien pour la voix par exemple
Bienvenue au club, Michel Onfray. Nous verrons par exemple ce qu'est l'effet placebo 01 45 24 7000.
Voilà, et ça sera juste après les infos.